France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Les annulations, les fermetures se succèdent en France à cause du coronavirus. Le musée du Louvre à Paris était fermé hier. Le personnel a cessé le travail, faisant valoir son droit de retrait et doit d'ailleurs se réunir ce matin pour décider de la suite. Les rassemblements de plus de 5000 personnes sont interdits. Après le semi-marathon de Paris hier, c'est le Salon du Livre qui est annulé. Il devait se tenir du 20 au 23 mars. En France, par ailleurs, 130 personnes donc ont été contaminées depuis le début de l'année, principalement dans l'Oise, en Île-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes. Dans l'Oise, d'ailleurs, les établissements scolaires de 9 communes resteront fermés pendant les deux prochaines semaines. Au niveau mondial, le bilan s'élève désormais à plus de 3000 morts, dont 2900 en Chine. La Corée du Sud et l'Iran comptent toujours de nombreux cas, ainsi que l'Italie. La pire des solutions, c'est en cœur que les oppositions critiquent l'annonce d'Édouard Philippe. Le Premier ministre a précisé ce week-end que le gouvernement utilisera bien l'article 49.3 de la Constitution pour faire passer la réforme des retraites. Dans la foulée, deux motions de censure ont été déposées à l'Assemblée nationale, l'une par le groupe Les Républicains, l'autre par les socialistes, communistes et insoumis. Ces motions seront débattues demain. Aux États-Unis, notons cette surprise dans la course à l'investiture démocrate pour la présidentielle de novembre. Pete Buttigieg, 38 ans, renonce. Ce modéré avait créé la surprise en s'imposant lors du premier caucus dans l'Iowa il y a 3 semaines. Mais il a fait un mauvais score en Caroline du Sud hier. Cela renforce les chances de Joe Biden face au favori Bernie Sanders, plus à gauche. Et ce, à la veille du Super Tuesday, élection dans 14 États en même temps qui aura donc lieu demain. Et puis, l'armée turque continue son offensive sur le nord-ouest de la Syrie, dans la province d'Idlib. 2 avions du régime de Damas ont été abattus, ainsi que 19 soldats syriens qui ont, eux, été tués. Alors qu'Ankara laisse toujours les migrants passer vers l'Europe, la Grèce est en état d'alerte maximum. Vous l'entendrez dans le journal de 6h30.
Un roi sans divertissement sur France Culture. Roman policier, récit psychologique, plongeant dans les zones d'ombre de l'âme humaine, l'ennui existentiel, la fascination exercée par le mal, un jeu de pistes sur fond de neige éclaboussé de sang.
On ne sait pas exactement la date, mais enfin 15, 16 ou 17, c'est un de ces 3 jours-là, le soir, qu'on ne trouva plus Marie Chazotte.
Qui aura le dernier mot ? Un roi sans divertissement de Jean Giono, à l'occasion des 50 ans de sa disparition. Le feuilleton, de lundi à vendredi à 20h30 et sur franceculture.fr.
À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars, France Culture explore les territoires de demain à conjuguer au féminin. Xavier Mauduit, le cours de l'histoire, du lundi au vendredi à 9h05.
Femmes révoltées, une histoire à réinventer. Mais où sont passées nos héroïnes? Celles qui combattent par la plume, par la parole, par les actes et par les armes. Nous nous intéresserons aux voix féminines que peut prendre la révolte, depuis les insolentes adolescentes jusqu'aux femmes savantes.
Féminisme, les conquêtes de demain, jusqu'au 12 mars sur France Culture et sur franceculture.fr.
Et à 6h03, comme tous les matins sur France Culture, nous retrouvons Toufik Hakem.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Réveil culturel, à la radio ou en podcast. Tous les lundis, c'est l'actualité des livres et aujourd'hui, un premier roman. Écorce de Hajar Bali, édité par Belfond, est une saga familiale avec un jeune homme de 23 ans entouré de 3 femmes puissantes. 3 femmes de 3 générations différentes, marquées chacune d'elles par les drames et les guerres qui ont ébranlé l'histoire de l'Algérie au XXe siècle. Un roman donc sur la transmission, comment transmettre les histoires et les secrets de famille, comment transmettre aussi l'histoire d'un pays. C'est un roman aussi sur les racines, les traditions, les petites révolutions et les grandes désillusions. Et c'est aussi un beau roman sur l'amour vorace des mères. Hajar Bali est mon invité ce matin. Son roman Écorce est un coup de cœur partagé avec Oriane Jeancourt du magazine Transfuge, également présente avec nous ce matin.
Le réveil culturel. Lundi,
Livre.
Bonjour Adjerbeli.
Bonjour Tiffet Rackham.
Écorce, votre premier roman, sort simultanément en Algérie aux éditions Barzac et en France, ici, aux éditions Belfond. Alors, je disais que c'est l'histoire d'un jeune homme, hein, mais il est vraiment entouré de femmes, un jeune homme de 23 ans, étudiant en mathématiques, qui a pour prénom Nour, c'est-à-dire lumière en arabe, ou brillance d'ailleurs.
Oui,
c'est donc l'histoire de Nour qui vit dans un petit appartement à Babeloued, entouré de femmes, sa mère Mariam, sa grand-mère paternelle Fatima et son arrière-grand-mère Baya, qui a 95 ans. Elle l'aime, alors franchement, elle l'aime ce Nour, elle l'aime à la folie, comme on aime un petit dieu. Et ces trois femmes ont toutes été traumatisées, je le disais en préambule, par les guerres qui ont secoué à des périodes très différentes leur pays. Et chacune d'elles, à sa manière, tente de raconter son histoire à Nour. Alors c'est une saga familiale avec tous les ingrédients inhérents au genre, mais c'est aussi peut-être pour vous une tentative d'écrire l'histoire d'un pays à travers les petites histoires de famille, c'est-à-dire par bribes, en y incluant bien sûr les non-dits qui travaillent de l'intérieur, comme vous dites.
Oui, exactement. En fait, les personnages sont traversés par tous ces événements de l'histoire, mais ils resteront toujours en marge. C'est-à-dire que il ne s'agit pas de héros. C'est un peu les petites histoires des familles qui sont pris dans ce tourbillon d'événements et de...
C'est-à-dire que le roman national, il est là, mais il est en arrière-fond.
Exactement.
Hein. Voilà. Mais très présent, puisque...
Il est présent, bien sûr.
Parce que toutes ces personnes ont été marquées.
Marquées, oui, par tout ça, par tout ce qui arrive, quoi.
Et puis le fait que ce soit des jeunes, parce que je parle de trois femmes, en fait, quand il y a quatre femmes, hein, on va parler aussi de la jeune, de la petite amie de Nour. Quand on lit ce livre, on a l'impression que c'était aussi une envie pour vous d'essayer de raconter l'histoire de l'Algérie, mais à travers les yeux des jeunes d'aujourd'hui.
Ah oui, d'accord, oui.
Alors c'est quoi le point de départ?
Je ne sais pas, le point de départ, oui, c'est vrai qu'on commence par Nour, mais en fait on commence par les deux extrêmes. On commence par Baya qui a 94 ans ou 95 ans, je me souviens plus, et Nour. Donc c'est tous les deux l'un qui ouvre et l'autre qui ferme le récit. Mais effectivement, les deux traversent le roman, toutes ces générations-là. Il me semble pas que Nour soit particulièrement important, même si c'est vrai que son regard va apporter. Va apporter une réalité concrète d'aujourd'hui, quoi. Voilà.
Non, mais surtout, il est à l'écoute. Il est à l'écoute de son arrière-grand-mère.
Il encaisse toutes les. Enfin, il reçoit toutes les histoires, tous les récits. Et voilà, il en est l'héritier. Il en est l'héritier. Et il est aussi en action dans sa vie, en portant en lui, dans ses os, dans son histoire, dans ses comportements, portant tout cet héritage, quoi.
Pourquoi ce sujet? Parce que vous allez parler de l'Algérie à l'époque coloniale, dans les années 30, puis on va traverser toute l'histoire du XXe siècle en Algérie avec vos personnages à Djerbali. Pourquoi ce sujet?
On va dire au départ qu'il s'est un peu imposé à moi, parce que c'est un peu mon histoire, c'est un peu le désir que j'ai eu de comprendre ce qui fait que nous soyons arrivés. Ben ça a été écrit et terminé, on va dire, dans sa grande majorité, le roman, en 2016. C'était donc avant ce qui nous arrive maintenant aujourd'hui.
C'est-à-dire ce mouvement de protestation qu'on appelle l'Irak.
Cette révolution, oui.
Ça fait un an d'ailleurs que tous les vendredis.
Absolument.
Vous-même, vous êtes très impliqué d'ailleurs dans ce mouvement à Djerbali.
Oui, j'en suis.
On y reviendra. Ouais. C'était une histoire de dire d'où venons-nous? Est-ce qu'on peut raconter notre histoire?
Et qu'est-ce qui fait que nous soyons arrivés à une espèce d'impasse? Voilà. C'est-à-dire essayer de comprendre qu'est-ce qui faisait que la société, en tout cas que j'observais à partir de moi-même aussi, était dans ce blocage, dans cette impossibilité de radicalisation profonde, quoi. Voilà. C'est ce qui a fait que j'ai voulu plonger le plus en arrière possible et me remémorer tous les récits qu'on a pu me faire ou que j'ai pu vivre dans ma société. Et à partir de vraiment, comme vous l'avez dit, de petits récits, c'est-à-dire de choses qui me paraissent plus, qui sont plus indicatrices de réalité qu'une saga avec héros et fanfares, etc. Je voulais vraiment qu'on reste dans une espèce d'intimité des choses et des gens tels que je les vois et tels que, il me semble, et rendre compte de la situation dans laquelle on se trouvait, on s'en trouve peut-être encore aujourd'hui.
Et pour le style que vous avez utilisé, parce que c'est un style qui mélange des monologues intérieurs, des petits textes, des choses vues, de la poésie, qui passe d'une époque à l'autre, et qui reste quand même, puisqu'il y a des dialogues, parce que c'est incarné par des personnages, ça reste vraiment une saga familiale, dans le sens populaire et noble du terme.
C'est dû à, enfin, c'est un peu la recherche que j'essaye de faire d'un langage, d'un langage d'un, ça relève d'un désir que j'ai de, on va dire, de désaxiomatiser.
Oui. Donc c'est la mathématicienne qui parle.
C'est-à-dire de sortir de ces lois ou de cette rigidité du langage et de la parole. Imposé, peut-être imposé par une dictature, peut-être imposé par la société, par la famille, et qui fait que...
Et en ce qui vous concerne, pardon, à dire Bali, par la langue, et donc par l'histoire, parce que vous passez par la langue française pour essayer de faire vivre des personnages hauts en couleur, mais qui, on l'imagine, s'expriment plutôt en arabe.
Oui, mais c'est vrai que j'ai eu, à un moment donné, j'ai eu le souci de ça, parce que je me suis demandé si j'allais pas, par exemple, utiliser... par moment, dans les dialogues, l'arabe derja ou
l'arabe parlé
populaire. Mais après, ça n'était plus un problème pour moi, parce qu'il me semble que ce n'est pas une question de quel est l'outil, enfin, par quel biais on peut faire parler. Mais plutôt, c'est la parole, c'est la. On va dire. Comment on peut puiser dans quelque chose d'authentique et même d'ancien, d'ancré dans nos os. Dans n'importe quelle langue. Et ça, c'est tout à fait possible, il me semble. Ce n'est pas l'idiome qui est important, mais plus la façon dont on apporte, dont on transmet cette langue.
Parlons des personnages féminins de votre roman, Hadjar Bali et Corse, et commençons par Baya, qui est vraiment impériale. C'est la, qui a 95 ans.
C'est la reine.
C'est la reine, c'est la reine qui a réussi sa révolution.
Qui a réussi, oui, en partie. En tout cas, elle s'est battue. Elle a été mariée très jeune, à 14 ans. Donc,
seconde épouse.
Oui, voilà. Mais il ne faut pas qu'on oublie que c'était quand même une enfant. Mais elle a eu à faire des choses, des choix et à mener une révolution, comme vous avez dit, un peu trop jeune, un peu trop tôt.
Parce qu'elle va récupérer son enfant, gagner son indépendance. Elle sera tout à la fois une femme répudiée et une femme libérée.
Exactement, qui se libère, Et elle va aller jusqu'à construire, jusqu'à mener sa petite famille, c'est-à-dire elle va fonder un foyer, enfin, elle va adopter une jeune femme qu'elle va prendre, qu'elle va faire épouser à son fils, et construire comme ça son petit monde auquel elle va être tellement accrochée, parce que pour elle, c'est sa réalité, c'est ses valeurs à elle qu'elle s'est construite au fur et à mesure, parce qu'elle était enfant.
Et tout ça pendant que la guerre fait rage, parce qu'elle va traverser aussi bien les événements de Sétif que la guerre de libération de l'Algérie.
Oui.
Bizarrement, les femmes des autres générations, elles vont être plutôt... pas soumises, mais elles vont accepter le renoncement au nom du patriarcat, au nom d'une culture.
Baya, quelque part aussi, y participe. Elle les pousse aussi à ces acceptations, ces renoncements.
C'est tout le paradoxe.
Et c'est ça tout le paradoxe, oui. Les deux autres personnes, enfin, je pense à Mariam qui a fait des études, qui, elle, a vécu la période socialiste
Le socialisme spécifique algérien, mais aussi les années 60, qui, dans le monde, ramenaient le féminisme, la libération des corps et tout ça. Elle était.
Et donc, elle a pris conscience à un moment donné de sa vie qu'elle avait la possibilité d'aller vers de prendre cette voie de libération et de radicalisation. Mais elle savait que ça allait être au prix de rupture dans sa famille.
Et donc, elle refuse ces ruptures.
Et c'est elle-même qui finalement se remet dans la conformité, quoi, qui accepte le mariage et qui renonce à ses études. C'est elle qui le fait.
On n'arrête pas de parler de femmes parce que les hommes, ils sont très soumis, très absents. Eux-mêmes ne choisissent pas leur destin. Eux-mêmes sont obligés de se conformer à un ordre établi.
Tout le monde, en fait. Toute la société, en réalité. Dans ce roman, en tout cas, ils sont tous dans l'acceptation de ce qu'ils vivent, même si les femmes ont un discours, ont une parole, parce qu'elles sont à l'intérieur dans l'enfermement dans lequel elles sont, dans leur maison, dans leur habitat, elles sont quand même elles se permettent, on va dire, une parole parfois assez violente, assez radicale. Alors que les hommes, eux aussi, étant subissant l'autoritarisme d'un pouvoir ou d'une autorité au-dessus d'eux ou même
de la société,
des femmes aussi, ouais. Du foyer, ils sont complètement en marge. Et ils sont en même temps, eux aussi, dans la recherche de leur langage, d'un langage. Je pense par exemple à Haroun avec sa poésie.
Ça peut passer aussi par la musique. J'aime beaucoup une scène dans votre roman Radio Bali, Écorce. Je crois que c'est Kamel, le menuisier, avec sa femme Mariam. C'est-à-dire qu'ils ont du mal à se parler des sentiments. Ils vont profiter d'un soap qui passe à la télévision pour faire référence à ce qui se dit et de revenir à une manière aussi pour vous d'assumer le côté populaire de votre écriture.
Ah oui, complètement. Oui, j'espère bien. Enfin, je... Oui, mais totalement.
مالي مالي ومالي الشمعة ما ضوتني في ظلام مالي مالي ومالي الصاد ما سقم لي ليام مالي مالي ومالي الشمعة ما ضوتني في ظلام مالي مالي ومالي الصاد ما سقم لي ليام نصيب ما فرحني نساني في الايام واللي مضاوع عني معاك خبلني تخمام حتى نصيب ما فرحني نساني في الايام واللي مضاوع عني معاك خبلني زقني دم بيا مقام بدل حلمي بوهام لا طالب ولا طبيب عالج ليا الاسقام لو مهاني الليل وانا عليك عساس لي مبني على خداع حرمولي نعاس ما تمنى وصار طعمه وانا عليك على عاس من يدهم شربت المرار كسيت بعكاس مالي ومالي ومال الشمس.
Lorsqu'elle quitte la maison de Nour, Mouna décide de marcher le long du boulevard de Front de Mer. Les lampadaires commencent à s'allumer, il fait encore jour pourtant. Il est déçu que je sois parti si vite, j'ai lu dans ses yeux. Elle a une boule au ventre, elles ont l'air tellement méchantes. Ne même pas m'inviter à s'asseoir. Elle pénètre maintenant au cœur de la ville, remonte lentement l'avenue d'Idouche Mourad quasi déserte. Seuls quelques groupes de jeunes hommes discutent en fumant au pied de leurs immeubles. Ils s'arrêtent de parler pour la regarder passer et lancent quelques compliments. « Vous êtes charmante, mademoiselle. »« Aïe, je suis amoureux !» et autres maladresses qui parfois la font sourire malgré elle, car évidemment, les déclarations d'amour gratuites sont finalement les blagues préférées de ses concitoyens, qu'il faut savoir accueillir parfois comme un rayon de soleil qui se serait oublié dans la nuit. Elle ne se sent pas en danger. Elle ne s'est jamais sentie en danger dans sa ville. C'est sa force. C'est extrait bien sûr d'Écorce, le premier roman de Hadjar Bali, édité chez Belfond en France. Et là, c'est l'autre femme, c'est la quatrième génération. On a parlé bien sûr de Baya, la patriarche, celle qui a 95 ans. On a parlé de Mariam, de Fatima. Mouna, elle est pas bien accueillie par la famille de Nour.
Mais non, c'est toujours la même attitude défensive de ces femmes qui veulent encore continuer, qui se sentent en danger parce que c'est une femme, comme elles disent, sophistiquée, quoi, moderne, et ça leur fait peur.
Comme elles disent, elle et vous, comment définir Mouna Hadjar Bali? Direz-vous que c'est une fille de la mondialisation, que c'est une fille qui assume ses ruptures?
Elle-même, sa mère déjà était assez libérée, on va dire entre guillemets. C'était une musicienne, ce qui est assez rare quand même, qui s'est abîmée dans un amour incroyable pour un homme qu'elle venait de quitter. Et donc, on pourrait dire que Mouna s'est un peu faite toute seule, mais elle vit seule. C'est-à-dire, c'est une femme qui a toujours été On peut pas dire qu'elle assume une liberté, puisqu'elle l'a toujours eue, quoi. Elle a toujours.
Mais est-ce qu'elle incarne pour vous la nouvelle génération de femmes algériennes à Djerbali?
Je ne pense pas. Pour moi, elle est quand même assez exceptionnelle, je veux dire.
Parce que dans ce passage-là que je viens de lire, on la voit bien.
Dans ce passage, mais je veux dire globalement.
Elle est dans son élément et en même temps, elle est
à l'aise. Ouais. Elle est à l'aise dans son
dans sa rupture.
Ouais. Mais elle est un peu en marge quand même de cette. Mais voilà, ça ne l'empêche pas de vivre normalement dans cette ville, tout en étant assez solitaire. C'est peut-être le prix que paye cette génération de femmes, on va dire un peu sorties de giron familial, quoi.
À Djerbali, avant de vous mettre à écrire, vous avez été longtemps professeur de mathématiques à l'université de Babzouar à Alger.
Ouais.
Puis ensuite, vous avez décidé, mais alors tardivement, de passer à l'écriture, d'abord pour écrire des pièces, ensuite des nouvelles. Écorce, c'est votre premier roman.
Oui.
Par ailleurs, vous êtes assez impliqué dans la vie culturelle et même politique de l'Algérie. Vous avez été longtemps la principale animatrice d'un ciné-club ou d'une association plutôt, Chrysalide, qu'on connaît ici en France parce que ça a permis à des réalisateurs de renouveler le cinéma algérien. Je pense notamment à Karim Moussaoui et à Hassan Farhani, qui étaient justement dans cette association avec vous. Depuis le 22 février, vous prenez la parole, vous êtes très impliqué contre la répression pour la défense des détenus d'opinion. Qu'est-ce qui se passe en Algérie? Comment aujourd'hui vous voyez ce qui se passe en Algérie un an après le Irak? C'est-à-dire, ça fait un an que les Algériens sortent tous les vendredis, les étudiants tous les mardis. Qu'est-ce qu'on obtient? Ça va où, ce mouvement?
C'est très joli ce que vous avez dit, cette question de prise de parole. Alors en fait, c'est exactement ça que je vois. Peut-être quelque part que le roman l'annonce un peu, puisque il y a chez les jeunes, chez le groupe de jeunes qu'on rencontre, un désir de
parler,
de faire une revue et
de s'exprimer
et de proposer autre chose, c'est-à-dire de sortir de l'axiomatique. Et c'est un peu ça que je constate aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a non seulement une prise de parole, mais comme une envie de rêver de tout, c'est-à-dire de se permettre tous les rêves possibles. Et voilà, c'est ça que je trouve très beau et qui est en train de nous arriver depuis une année. Ça prendra du temps, je pense, mais on est quelque part engagé dans une voie définitive vers l'éclatement de tout ce qui nous enfermait, des écorces dans lesquelles on voulait nous.
D'ailleurs, d'où le titre de votre roman, c'est bien de rappeler à Djerbali. Mais par exemple, l'écrivain Kamal Daoud a jeté un pavé dans la mare, encore une fois, en disant que ce mouvement populaire n'a pas pu se transformer en proposition politique. Sa critique, elle s'entend, mais qu'est-ce que vous en pensez à Djerbali?
Je pense qu'il est encore trop tôt pour le dire. Voilà ce que je voudrais dire, en fait. C'est vrai que ça ne s'est pas transformé en discours
structuré, politique, pour un.
Mais pourquoi pas? Je veux dire, peut-être qu'il y a autre chose. C'est pour ça que je dis, il y a autre chose à inventer, probablement.
Écorce de Djerbali est un des coups de cœur partagés avec le magazine Transuge. Bonjour Auriane Jeancourt.
Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Alors oui, en effet, c'est un coup de cœur partagé. J'ai été très impressionnée par votre roman à Djerbali. D'abord par ce souffle, parce qu'on est sur plus de 300 pages emportées dans l'histoire de ces familles, par ces différentes femmes. Je vous le disais quand nous nous sommes rencontrés par cette virtuosité de la construction. Toufik en a un peu parlé, mais c'est vrai que vous jouez sur les époques, sur les voix, sur les registres, sur les voix intérieures. C'est ce qui permet d'ailleurs de sauver, si c'était à sauver, mais ce roman du classicisme, quoi. Vous faites quelque chose de très, très moderne. Et en effet, comme vous venez du théâtre, ça se voit de très vivant. Et puis, je vous écoutais parler de l'état de l'Algérie. Et évidemment, on y pense beaucoup quand on voit Nour, qui comme ça recueille ses paroles, ses témoignages de femmes, qui recueille ses destins historiques. Et en même temps, Nour qui traverse tout le livre, puisqu'on le voit enfant, avec sa mère, sa grand-mère, comme ça. On se demande même à un moment s'il n'est pas un peu différent comme enfant. Et non, il est simplement sensible. Et donc... On se dit, voilà, qu'est-ce que c'est que d'hériter d'un tel héritage historique? Qu'est-ce que c'est que d'hériter d'une histoire aussi tourmentée? Et qu'est-ce que c'est que d'hériter de ces paroles de femmes retenues et secrètes? Et peut-être que les jeunes hommes qu'on voit en effet défiler sont des nours en puissance. Enfin, c'est, voilà, c'est vraiment un livre assez poignant à lire aujourd'hui.
D'autres coups de cœur à partager, Auriane Jeancourt?
Oui, absolument. Alors,
on reste dans le domaine littéraire, comme tous les lundis, dans le réveil culturel.
Avec un roman d'un Nigérian que j'aime beaucoup qui s'appelle Chikodie Obioma. Et alors là, on est dans toute autre chose. Chikodie Obioma, il a déjà publié un livre qui parlait des pêcheurs au Nigérian. Et là, il nous parle d'oiseaux. Il nous parle d'oiseaux et il nous parle d'un jeune éleveur d'oiseaux qui est passionné par ses oiseaux, est passionné par les oiseaux. C'est aussi un enfant un peu différent. Il a quelque chose de nourrant enfant, se demande s'il n'est pas un peu fou. Mais il parle aux oiseaux, il a perdu sa mère très tôt et puis il est dans l'Afrique d'aujourd'hui, dans le Nigeria d'aujourd'hui, enfin de ces 30 dernières années où on parle beaucoup de politique, où la violence citadine est très présente, et lui il ne parle qu'aux oiseaux. Et puis un jour il va rencontrer une femme, et cette femme elle va lui permettre de sortir de ce monologue avec la nature et avec les animaux, mais elle va le pousser à se dépasser, et donc il va décider de partir en Europe. Et là on va aller dans la grande épopée des migrants d'aujourd'hui.
Et du Nigeria, on passe à la Pologne.
Oui, et alors là, et on passe aussi à une autre génération, puisque c'est une grande dame des lettres polonaises, Anna Kral, qui publie Les Vies de Maria aux éditions Noir sur Blanc. Alors, vous savez, Anna Kral, c'est une figure en Pologne. D'ailleurs, on avait beaucoup parlé d'elle au moment du prix Nobel. Elle a beaucoup compté, c'est une journaliste, écrivain, qui a réinventé le reportage littéraire avec Richard Kapuscinski, qui a fait un livre avec Marek Edelman, le héros du ghetto de Varsovie, dans Les Vies de Maria, revient sur une histoire assez particulière qui faisait l'objet. Elle a beaucoup travaillé avec Kieslowski et elle était sa scénariste. Et dans un des décalogues, des fameux décalogues de Kieslowski, elle raconte une histoire. C'est l'histoire de deux Polonais qui ont recueilli une petite fille pendant la guerre en 1942, une petite fille juive, et qui devaient lui offrir le baptême pour la protéger. Et donc, au moment où ils sont arrivés à l'église, ils étaient tellement croyants qu'ils n'ont pas pu mentir et qu'ils ont abandonné la petite fille.
Les Vies de Maria d'Anna Kral, c'est chez Noir et Blanc. Et puis La prière des oiseaux du Nigérian Chigozie Obioma, c'est chez Bûcher Chastel à Djerbali, puisque c'est votre premier passage à France Culture. Pour mieux vous connaître, quels sont pour vous les trois romans fondateurs de la littérature algérienne? À un certain moment, on voit une de vos femmes lire un roman d'Assia Djebbar.
Ouais. Ah oui,
Les Alouettes Naïves.
Pour moi, oui.
Par ailleurs, ça s'ouvre avec une citation de Jean Brouche, chant berbère de Kabylie. La voix d'un peuple, d'ombre et de vivant, la voix d'une terre et d'un ciel. Pour vous, alors, les trois...
Eh bien oui, en plus de Assia Djebbar, je dirais Kateb Yassine, moins connue, plus jeune, Elmadia Chachour.
Qu'on connaît pas. Connaissez pas. Ah bah là, très bien, on va retenir.
Oui, il y a notamment un roman Pays de...
En arabe ou en français d'ailleurs?
En français, ouais. En français, oui.
Et s'il fallait parler un peu de votre bibliothèque idéale dans la littérature mondiale, qu'est-ce que vous appréciez à Djerbali?
J'aime beaucoup Guimarães Rosa. Diadorim, c'est un roman qui m'a franchement fasciné. Kafka, on peut dire, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais mettre.
Avec, me disait Auriane Jeancourt, une nouvelle édition
du journal, avec des passages inédits, notamment sur l'amitié Max Brod, Franz Kafka.
Aux éditions Nous.
J'ai découvert aussi un roman récemment qui est quand même vieux, de Sapienza, je crois qu'elle s'appelle, l'auteur italienne.
Goldena Sapienza.
Voilà. Oui. La joie. Attends,
c'est l'art de la joie.
L'art de la joie, oui. Fantastique aussi, un roman qui m'a passionné.
Le réveil culturel de Toufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr et on peut s'abonner au podcast de l'émission en passant par l'application Radio France.
À la coordination, Corinne Amar. À la réalisation, Vincent Abouchard. Ce matin, à la prise de son, Alain Joubert. Je rappelle qu'Écorce de Hadjer Bali est édité en France chez Belfond. Merci beaucoup d'être venu.
Merci à vous.
Et merci à Auriane Jeancourt du magazine Transfuge. On se retrouve très bientôt sur les ondes de France Culture. À venir, les informations, le journal des idées et les enjeux internationaux. Merci d'être de plus en plus nombreux à vous réveiller avec les petits matins de France Culture. À demain.
France Culture, l'esprit d'ouverture. France Culture se mobilise pour dénoncer l'arrestation arbitraire par les autorités iraniennes de deux chercheurs français, Fariba Adelka et Roland Marshall, jugés cette semaine à Téhéran. Pour qu'ils ne soient pas les otages de notre silence, logisticiens humanitaires, diplomates, historiens, journalistes témoignent sur France Culture au micro d'Antoine Garapon, magistrat.
Dans un monde en pleine transformation, inquiet et violent, le droit est un repère, c'est une boussole.
Matière à penser du lundi au vendredi à 22h15 et sur franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. L'Agence européenne de contrôle des frontières déploie des renforts. Les migrants se massent toujours par milliers entre la Turquie et la Grèce pour entrer en Europe. Alors qu'en Syrie, dans le même temps, les habitants fuient le nord du pays, les bombardements entre Turcs et régime syrien sont incessants. Le coronavirus a fait plus de 3000 victimes dans le monde. Chaque pays prend des mesures pour tenter d'endiguer cette épidémie. En France, les rassemblements de plus de 5000 personnes sont annulés, les uns après les autres. Et c'est dans ce contexte que le gouvernement confirme l'utilisation du 49.3 pour faire passer la réforme des retraites à l'Assemblée. L'opposition prépare la riposte, vous l'entendrez. Et puis nous irons en Israël. Les bureaux de vote ont ouvert ce matin pour les troisièmes législatives en 11 mois. L'offensive militaire de la Turquie contre le régime de Bachar el-Assad se poursuit donc. Hier, deux avions syriens ont été abattus, 19 soldats ont été tués. Les frappes sont incessantes. Et dans le même temps, Ankara maintient la pression sur l'Europe, car les Turcs laissent passer des milliers de migrants, de la Syrie notamment, vers la Grèce. La présidente de la Commission européenne se disait hier préoccupée. Ursula von der Leyen estime que la priorité est d'aider la Grèce, la Bulgarie et Chypre, pays en première ligne d'une arrivée massive. L'agence européenne de garde-côtes Frontex est en état d'alerte, Johanna Hochstein.
Dans le cadre de l'opération Poséidon, quelques 400 gardes-côtes de l'agence Frontex sont actuellement déployés à la frontière gréco-turque pour contrôler les flux migratoires. 60 agents se trouvent aussi en Bulgarie. Des moyens qui vont être revus à la hausse, a annoncé l'agence Frontex. Du personnel et du matériel vont être envoyés en renfort en Grèce. L'agence européenne surveille également attentivement la frontière chypriote. Ces annonces font suite aux menaces de Recep Tayyip Erdogan de laisser passer les migrants souhaitant rejoindre l'Europe, contrairement à l'engagement qu'il a pris. En 2016, le président turc avait accepté de prendre en charge les réfugiés syriens sur son territoire en échange d'un soutien financier de l'Europe de 6 milliards d'euros. Mais Ankara se plaint régulièrement de retard dans le transfert de ces fonds. En fait, un peu plus de la moitié de l'enveloppe a effectivement été déboursée pour le moment. Le président turc, qui veut aussi faire pression sur les dirigeants européens pour les forcer à le soutenir dans ses opérations militaires en Syrie. Pour coordonner les prochaines actions de l'UE, le commissaire européen à la migration, le grec Margaritis Skinas, appelle à une réunion extraordinaire des ministres européens de l'Intérieur.
Le coronavirus touche déjà plus de 85 000 personnes et des dizaines de pays à travers le monde. La Chine toujours, mais aussi la Corée du Sud, où le bilan est de 4 212 personnes contaminées, dont 22 personnes décédées. L'Iran fait état de 54 morts, 34 en Italie. Le nombre de personnes touchées a doublé en Allemagne ce week-end. Il est de 130 personnes contaminées en France. La France, où les rassemblements en intérieur de plus de 5 000 personnes sont annulés. C'est le cas du Salon du Livre qui devait avoir lieu dans deux semaines. L'économie de la culture est touchée, l'économie du spectacle surtout, et l'inquiétude monte, Jacqueline Pétroz.
80 salles fermées en France peuvent accueillir 5000 spectateurs ou plus. Plusieurs annulations sont déjà annoncées. À Nantes, le concert du 7 mars au Zénith de Maître Gims et les 7 et 8 mars, le salon Paris Manga. Les professionnels, conscients de l'enjeu sanitaire, demandent cependant un cadre juridique. Malika Seguino, directrice du PRODIS, syndicat des producteurs.
On comprend bien qu'il y a une inquiétude de santé publique. Nos professionnels sont parfaitement responsables. Ils ont seulement besoin de connaître le cadre précis de cette mesure, puisque à ce jour, nous n'avons toujours pas de texte officialisant, donc il n'y a pas de base juridique à cette interdiction. Nous avons la déclaration du ministre de la Santé hier, mais rien d'autre.
C'est encore un peu la confusion. Pour les salles de 5000 places, les professionnels peuvent réduire la vente pour passer en dessous de la barre, mais on constate que sur les sites, certains grands événements sont toujours à l'affiche, comme la Nuit de la Bretagne le 7 mars à Nanterre, avec 40 000 personnes. Selon le ministre de la Culture, Franck Riester, les préfets devraient prendre cette semaine des décisions administratives. Du côté des musées, si le Louvre restera fermé ce matin pour une réunion du comité de santé et de sécurité, il n'est pas en fait concerné par la mesure, malgré le nombre de visiteurs, parce que ceux-ci se déplacent et ne restent pas confinés.
L'opposition a crié au scandale ce week-end, car cette interdiction de se rassembler à cause du coronavirus a été annoncée quelques heures seulement avant que le Premier ministre ne confirme ensuite l'utilisation du 49.3 pour la réforme des retraites. Une façon, disent certains, d'empêcher toute manifestation. L'article 49.3 de la Constitution sera utilisé cette semaine. D'ici là, deux motions de censure seront débattues et votées contre le gouvernement. Elles ne devraient pas aboutir puisque la majorité reste présidentielle. Le texte qui arrivera au Sénat sera donc celui du gouvernement, Delphine Simon.
300 amendements ont été intégrés à cette nouvelle mouture des dispositions discutées avec les partenaires sociaux, comme le compte professionnel de prévention ou le congé de reconversion de 6 mois. Le texte reprend aussi la totalité des amendements déposés par la majorité pour améliorer les droits à la retraite des handicapés, des femmes et des familles, comme la reversion des conjoints divorcés, par exemple. Symbolique, la suppression de l'article 65, rebaptisé BlackRock, car il ratifie des ordonnances sur l'épargne retraite. Par souci d'apaisement aussi, certains amendements de l'opposition ont été intégrés, dont un amendement communiste qui instaure une clause du grand-père pour les égoutiers. Aucun, en revanche, venant de la France insoumise. Reste à prendre en compte la pénibilité, une priorité pour la CFDT. Le MEDEF y est farouchement opposé. Matignon repousse le sujet après la conférence de financement des retraites, dont l'objectif est, dit-on, de rapprocher les points de vue. Comme l'a écrit Édouard Philippe dans sa lettre au syndicat, la fin des débats en première lecture n'est pas un aboutissement.
Des syndicats qui se retrouveront ce matin pour acter d'une éventuelle mobilisation avec en tête Force ouvrière et la CGT. C'est aujourd'hui la date limite pour les entreprises de 50 à 250 salariés pour publier leurs notes en matière d'égalité salariale femmes-hommes. Un autodiagnostic imposé par la loi qui se base sur 4 indicateurs, l'écart de rémunération, l'écart de taux d'augmentation individuelle et de promotion, le nombre d'augmentations post-congé maternité et le nombre de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations dans l'entreprise. La société d'expertise en assurance, ADEN, par exemple, a obtenu la note de 81 sur 100. Une bonne note, donc. Il faut dire que la directrice générale est une femme de conviction, Florence Bernetti.
En tant que femme, on fait un peu plus attention à ces choses. Voilà, dans notre carrière, il y a des choses qu'on voit, soit des femmes qui n'étaient pas augmentées à leur retour de congé maternité, alors que sur la durée de présence, il y avait une très belle performance, des postes qui ne leur étaient pas proposés. Voilà, donc moi, c'est des choses que j'ai pu constater vraiment. Après, en pratique, on a envie d'arriver à corriger le tir quand on en a les moyens, ce qui est mon cas aujourd'hui. Voilà, jette la pierre à personne, mais les experts se recrutent entre eux et on a eu des postes qui étaient par le passé pas forcément ouverts à tous, mais plutôt par cooptation. Voilà, et donc par déduction, on avait aussi beaucoup d'hommes. En tant que femme DG, je souhaite vraiment encourager les femmes à postuler à ces postes, de métiers un peu moins connus et techniques, et à des postes de direction, parce que c'est possible. Elles en ont elles-mêmes pas forcément conscience, elles s'auto-censurent, alors que avec leurs compétences, elles sont vraiment à égalité avec les hommes. Enfin voilà, on a vraiment structuré en termes de process RH pour être le gardien du temple de cette égalité au quotidien.
Des propos recueillis par Annabelle Grelier. Ils vont voter pour la 3e fois en moins d'un an. Les Israéliens sont appelés aux urnes ce lundi pour de nouvelles législatives. Le choix est toujours le même. Le Premier ministre sortant, Benjamin Netanyahou, à droite, ou le centriste, Benny Gantz. À l'aube de ces élections, notre envoyé spécial s'est rendu dans le nord d'Israël, dans le triangle de Galilée, une région qui borde la Cisjordanie et où vivent près de 300 000 Arabes israéliens. Le projet de paix de Donald Trump ces derniers mois veut les intégrer au futur État palestinien prévu par le président américain, mais eux refusent et ils tiennent à leur citoyenneté, Omar Waman.
Située à flanc de colline, la ville de Houm el-Fahem est la plus peuplée de ce territoire qui longe la frontière avec la Cisjordanie. Ici, on ne veut pas d'un rattachement au futur État palestinien prévu par le plan de paix de Donald Trump, le maire Samir Sobhi.
C'est hors de question, pas seulement pour moi, mais pour tous les habitants de la ville.
Des habitants qui ont manifesté à plusieurs reprises contre cette proposition et qui aujourd'hui devraient se rendre très nombreux dans les bureaux de vote, c'est en tout cas la conviction du député Youssef Jabadrine.
En fait, lorsque ce plan a été rendu public, cela a provoqué une grande colère au sein de notre communauté. Et je suis sûr que cela va encourager les gens à aller voter, et notamment les jeunes.
Et pour appeler la population à aller voter, les jeunes ne sont pas les derniers. Mai, une lycéenne de 18 ans, arpente les rues de la ville et frappe à toutes les portes.
Je fais ça pour ma ville, pour mon peuple.
Tous disent être attachés à leur citoyenneté israélienne, comme Ali, un vieil homme assis dans sa boutique de bricolage.
Je suis palestinien d'origine, mais aujourd'hui je suis israélien et je vis en Israël. Et ça, ce n'est pas négociable.
Solidaire des Palestiniens, ces Arabes israéliens ne veulent pas pour autant être privés de la citoyenneté du pays où beaucoup sont nés.
C'était notre envoyé spécial en Israël, Omar Waman. La météo en France, c'est assez simple. De la pluie et du vent sur tout le pays avec 7 degrés à Paris ce matin, 14 à Marseille. Bonjour Jacques Meunier.
Bonjour Clara Le Coq-Réal.
Dans votre journal des idées ce matin à 6h40, vous revenez sur l'utilisation de l'article 49.3 que nous avons évoqué. Cela suscite des réactions.
Et oui, à commencer par les organisations syndicales. Qu'on ne puisse pas, sur un sujet aussi fondamental, mener le débat à terme est désastreux pour la démocratie, a déclaré Laurent Berger au Parisien dimanche. Le secrétaire général de la CFDT se dit inquiet sur le contenu du texte, car selon lui, ce 49.3 escamote le débat et les mesures de justice sociale, réclamée depuis des mois par sa confédération, n'ont jusqu'à présent pas été prises en compte. D'autres réactions reviennent dans le monde.fr sur la raison invoquée par le gouvernement, mettre un terme à l'obstruction systématique de l'opposition. Pour François Auméril, président de la CFE-CGC, la première obstruction au débat parlementaire a commencé à l'instant même où le gouvernement a décidé de faire une procédure accélérée sur un texte comme ça. Yves Verrier, numéro 1 de FO, estime que l'exécutif pouvait jouer l'apaisement, d'autant plus que sa réforme des retraites porte sur une composante majeure de notre contrat social. Côté patronal, Alain Griset, président de l'Union des entreprises de proximité, artisans et commerçants, souligne que la majorité est assez large pour voter le texte. C'est juste une question de timing. Pour Maxime Tandonnet, dans le Figaro Vox, le retour au 49.3 est de moins en moins justifié. Depuis l'adoption du quinquennat en 2000, l'Assemblée nationale, élue systématiquement dans la foulée de l'élection présidentielle, a perdu l'essentiel de son autorité, de sa souveraineté. Elle se présente comme une annexe de l'Élysée et de fait lui est largement soumise. Il rappelle que l'article 49.3 fut introduit dans la Constitution de 1958 en réaction contre les régimes de la 3e et de la 4e République dominés par une Assemblée toute puissante qui faisait et défaisait les gouvernements et pour mettre fin au régime des partis qui interdisait à la France d'être gouvernée dans la durée. Jusqu'à présent, il a été utilisé lorsque le pouvoir ne disposait pas d'une majorité absolue au Parlement ou lorsque cette majorité était divisée, comme entre 2014 et 2017, par Manuel Valls pour les lois de libéralisation de l'économie. Or, la situation est totalement différente aujourd'hui, comme le souligne Natacha Polony dans Marianne. La République en marche n'a pas jugé bon d'utiliser jusqu'à présent les outils qui lui auraient permis de contourner l'obstruction des députés insoumis, tant législatifs programmés ou votes bloqués. Des dispositions pourtant défendues par le député LREM du Bas-Rhin et vice-président de l'Assemblée nationale, Sylvain Wasserman, dans les pages idées de Libération. En particulier, le temps législatif programmé, il enrichit le débat, dit-il, en ce qu'il permet aux divers groupes de gérer leur temps en le focalisant sur les priorités politiques qu'ils veulent défendre. Et il réduit drastiquement le risque d'obstruction puisqu'il fixe l'enveloppe totale de temps que chaque groupe peut utiliser. Rattrapé par l'actualité et l'annonce du gouvernement, le député estimait notamment nécessaire de reconnaître dans les textes la notion d'obstruction parlementaire, jugeant que nous arrivons probablement probablement au bout d'un modèle démocratique qu'il faut repenser en profondeur. Notre Parlement doit être doté des prérogatives et des outils qui lui permettront d'accomplir sa mission de façon plus efficace, plus rationnelle et plus démocratique. Face à une crise de légitimité, la tâche primordiale est de rouvrir le mot démocratie et de casser l'assimilation entre démocratie et élection, affirme Samuel Hayat dans l'hebdomadaire Le 1, qui pose cette semaine la question « Comment augmenter la démocratie ?» Pour le politiste, les mouvements sociaux actuels et la défiance envers la classe politique, et ce partout dans le monde, ont pour cause une persistance de la conception traditionnelle d'un gouvernement représentatif comme synonyme de la démocratie, ce qui arrange d'ailleurs bien certains régimes autoritaires qui se qualifient de démocratie sous prétexte qu'ils organisent des élections libres comme la Russie ou l'Iran. Pardon. Or, il est démocratique qu'entre deux élections, le peuple ait un droit de regard sur ce que font les représentants, de manière à établir une démocratie réelle, à la fois politique, reposant sur la participation de tous, et sociale, améliorant le sort des dominés, des pauvres. Ce qu'on appelait les nouveaux mouvements sociaux, il y a maintenant plusieurs décennies, peinent encore à trouver leur place dans nos démocraties. Aujourd'hui, les mouvements féministes, les mouvements pour le climat sont des organisations de plus en plus massives et qui ne cherchent pas de manière prioritaire à prendre le pouvoir. C'est pourtant là que se joue la vitalité démocratique. Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux avec vous Julie Gacon.
Bonjour Jacques Munier, bonjour à toutes et à tous.
Au sommaire aujourd'hui, l'accord signé samedi entre les États-Unis et les talibans est un accord de retrait, pas un accord de paix.
Oui, même si les Afghans ont pu apprécier à la faveur de la trêve de 7 jours ce qu'étaient des soirées dehors, des allers-retours, même timides, dans des zones évitées jusque-là car dangereuses, ou encore des routes sans barrages talibans. C'est en tout cas ce qu'ont rapporté les personnels des Nations Unies depuis leur poste d'observation dans tout le pays. C'était aussi la condition sine qua non pour que soit entériné cet accord, donc finalement signé samedi à Doha, au Qatar, et préparé depuis près de 2 ans par les Américains et les talibans. Un accord conditionné néanmoins par la réussite des négociations intra-afghanes entre talibans et gouvernement afghan. Elles commenceront la semaine prochaine et devraient durer de longs mois. Bonjour Romain Maléjac.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur au département de sciences politiques de l'université de Radboud aux Pays-Bas. Vous êtes expert des groupes armés non étatiques en Afghanistan. Romain Maléjac, une partie de cet accord entre Américains et talibans est restée secret, notamment les annexes qui portent sur les modalités de départ des troupes américaines. Mais on en connaît les grandes lignes. Les États-Unis vont ramener de 12 000 à 8600 leurs soldats basés sur place d'ici 135 jours. Bon, maintenant 133, on est lundi. On comprend bien que ce n'est qu'un début.
Oui, effectivement. L'accord prévoit en réalité un retrait total des forces américaines et des forces de l'OTAN sous 14 mois. Mais il s'agit bien d'un retrait qui sera progressif et conditionnel. Donc, comme vous l'avez mentionné, en échange de ce retrait, les talibans s'engagent d'une part à couper les liens avec les groupes armés ennemis des États-Unis, et en particulier d'Al-Qaïda qui est mentionné dans le texte, ainsi qu'à empêcher ces groupes armés d'opérer depuis le territoire afghan. Et d'autre part, les talibans s'engagent à entamer un processus de négociation, ce qu'on appelle le dialogue inter-afghan, avec les autres parties, c'est-à-dire avec des représentants du gouvernement et de la société civile pour déterminer d'une solution politique.
Alors, en contrepartie du retrait américain, dont on ne sait pas encore s'il laissera ce retrait la place à une force résiduelle antiterroriste, comme Donald Trump a toujours défendu il y a quelques semaines encore à Davos, en contrepartie, les talibans s'engagent à ne pas autoriser, quel groupe djihadiste que ce soit, à entrer dans le pays sans présager de leur sincérité. Est-ce qu'ils en ont au moins les moyens de rester un rempart contre Al-Qaïda et contre l'État islamique?
Alors les talibans eux-mêmes, pas nécessairement dans le futur, mais le futur gouvernement dont ferait partie les talibans, oui, probablement, puisque Al-Qaïda est en réalité est relativement faible en Afghanistan aujourd'hui. On parle de centaines d'hommes. L'État islamique est plus important, plutôt de milliers d'hommes, mais l'État islamique est en guerre ouverte contre toutes les autres parties en Afghanistan, dont les talibans. Il représente également la menace principale pour les pays de la région. D'autre part, les talibans ont des réseaux de renseignements humains qui sont assez importants, qui s'ajoutent aux services de renseignement qui existent quand même dans l'État afghan. Et le nouveau gouvernement devrait quand même être soutenu dans cette lutte, normalement, par les États-Unis, puisque l'accord, quand même, en marge de l'accord, est prévu un processus de coopération en matière de lutte antiterroriste entre les talibans et les États-Unis.
Donc les liens ne seront pas totalement coupés entre armée américaine et armée afghane. Romain Maléjac, un autre pan, volet de cet accord concerne la question des prisonniers. Côté taliban, ce sont 5000 anciens combattants qui vont sortir de prison. On dispose de très peu d'éléments, disons, techniques pour savoir qui seront ces 5000 prisonniers ou comment ils seront choisis. Mais est-ce que le gouvernement afghan peut accepter de céder à ce terme-là de l'accord avant même que les négociations intra-afghanes aient commencé ?
Alors effectivement, ça c'est la grande question déjà avant le début des négociations avec le gouvernement, puisque vous l'avez dit, l'accord prévoit de faciliter la libération de 5000 prisonniers, mais en même temps, les États-Unis se sont, dans un autre paragraphe, s'engagent à la libération de ces 5000 prisonniers, sur à peu près 10 000 qui seraient aux mains du gouvernement. Le problème, c'est que le président Ashraf Ghani a immédiatement réagi, enfin le lendemain, pour dire que le gouvernement n'avait jamais donné son accord sur ce principe. Et le problème, c'est que c'est un moyen de levier qui est très important pour le gouvernement. Et a priori, le gouvernement afghan n'a pas du tout intérêt à accepter cette libération des prisonniers.
Même si les talibans, en échange, doivent libérer 1000 soldats afghans. Donc d'emblée, les négociations intra-afghanes s'annoncent quand même difficiles. Quel est aujourd'hui le rapport de force qui s'annonce entre des institutions afghanes et les talibans, qui, de mouvement insurgé et terroriste, est devenu un véritable interlocuteur politique, mais à l'initiative des États-Unis, les institutions afghanes sont devant le fait accompli, en quelque sorte.
Oui, tout à fait. Alors, les talibans sont clairement en position de force. Hein. C'est un accord qui est clairement en leur faveur. Ils sont d'ailleurs exprimés en ce sens, puisque Akhundzada, le leader des talibans, a déclaré qu'il s'agissait effectivement d'une victoire. D'une part, ils ont obtenu la signature d'un accord bilatéral avec les États-Unis, sans la participation du gouvernement afghan, que les talibans considèrent toujours comme une marionnette des États-Unis et qu'ils ne veulent toujours pas reconnaître, puisqu'ils refusent en réalité, même dans le cadre de ce dialogue, de négocier avec le gouvernement en tant que tel, mais plutôt avec des représentants du gouvernement. Et donc effectivement, cet accord, c'est quelque chose qui avait toujours été refusé par les Américains. Par ailleurs, ils ont aussi obtenu la mise en place d'un calendrier de retrait, ce qui est leur principale demande. Et de l'autre côté, le gouvernement est faible, contesté, et d'autant plus affaibli que les deux candidats à l'élection présidentielle de l'automne 2019 ont déclaré ou ont été déclarés vainqueurs, puisque Ashraf Ghani, qui est le président sortant, a été reconnu vainqueur par la commission électorale après une élection qui a été marquée par la fraude et une abstention record, donc une légitimité très faible.
Très faible.
Oui. Et Abdullah, qui lui servait jusque-là plus ou moins de premier ministre, a contesté le résultat et a déclaré qu'il avait lui-même formé un gouvernement. Donc on peut voir que ça va être très compliqué de présenter un front uni dans ces négociations.
Surtout face à des talibans qui, eux, sont très unis, très structurés, en tout cas très disciplinés. Le gouvernement va nommer, j'imagine, des interlocuteurs, mettre sur place une délégation. Est-ce qu'on sait déjà de qui il s'agit ? Qui seront les interlocuteurs des talibans et qu'est-ce que ça laisse présager du contenu des discussions sur les droits humains, sur la question des femmes ? Évidemment, ces questions sont dans toutes les têtes.
Oui, alors pour le moment, on ne sait pas exactement quelles seront les personnalités qui vont être représentées, puisque déjà, il y a ce problème, puisque le nouveau gouvernement Ghani n'a pas été formé. L'accord lui-même fait référence aux autres partis, sans nommer le gouvernement. Mais c'est quand même le président, donc a priori Ashraf Ghani, qui doit nommer les membres de cette délégation. Donc on peut penser qu'il y aura effectivement des représentants du gouvernement, des représentants de la société civile et en particulier des femmes, et des représentants d'autres groupes, notamment des gens autour d'Abdullah qui a demandé à ce que ces parties-là soient représentées. En termes de contenu, on peut également se poser la question de ce qui va se passer, puisque à mon avis, il y a deux points d'achoppement particuliers, majeurs. C'est que déjà la question du régime. Les talibans ont toujours été en faveur d'un émirat, même s'ils ont un peu édulcoré leur langage récemment, notamment dans une tribune au New York Times par le numéro 2 du mouvement, puisqu'ils parlent maintenant d'un régime islamique. Et ce régime islamique reste toujours à définir. Et d'autre part, effectivement, la question des droits de l'homme et en particulier des droits des femmes, puisque les talibans ont beau dire qu'ils ont changé, on voit bien que dans les territoires sous leur contrôle, ils continuent à traiter les femmes et les filles de la même façon que par le passé. Même si, dans cette même tribune, Ghani a également mentionné les femmes et à parler du respect des droits des femmes selon les principes de l'islam. Mais encore une fois, c'est très vague, et les principes de l'islam, c'est l'interprétation de l'islam par les talibans.
C'est vrai que les talibans ont souvent mis en avant le fait que c'était eux qui protégeaient l'intégrité physique des femmes afghanes et non pas les troupes occidentales ni le régime de Kaboul. C'était quand même vraiment toujours leur discours et leur communication. C'est-à-dire que eux, les talibans, vont monter avec le gouvernement afghan un nouveau système politique, ou ce sera quand même à eux de s'adapter au régime tel qu'il existe avec une constitution qui garantit des valeurs humanistes et de tolérance dans la constitution afghane?
Alors ça, ça fait partie des discussions. En réalité, on ne sait pas. On a un petit peu quand même du mal à voir les talibans accepter cette constitution et ce régime, puisque ils restent toujours opposés à la démocratie participative. Ils restent opposés à cette constitution qu'ils considèrent, selon leur formule, comme une constitution qui a été acceptée sous l'ombre des B-52, c'est-à-dire sous l'ombre des bombardiers américains et sous la contrainte américaine. En revanche, on sait quand même qu'il y a également des divergences, comme dans toute délégation, comme dans tout groupe, il y a des divergences, il y a des opinions qui diffèrent au sein même des talibans. Donc il n'est pas impossible de voir des concessions. Il est sûr que cette constitution devra soit être adaptée, soit changée complètement. Il est assez peu probable de les voir accepter cette constitution. Mais on peut penser qu'il y aura quand même, potentiellement en tout cas, des concessions de la part des talibans, ajouté à probablement un durcissement quand même sur les questions sociales, et notamment pour les femmes, qui sera très vraisemblablement en défaveur des populations urbaines.
Il faudra également voir si les talibans acceptent un désarmement, et peut-être aussi du côté des milices toujours sur place, notamment de la CIA. Hein, c'était ce qu'expliquait une chercheuse de Human Rights Watch dans Libération il y a quelques temps. Est-ce que les milices sur place accepteront également de partir? Enfin, il y a encore plein de conditions, peut-être pour conclure, Romain Malejac, que pèsent aujourd'hui les anciens anti-talibans, tous ceux qui, de manière générale, s'étaient opposés au principe même des négociations, et notamment, je pense au fils du commandant Massoud, Arman Massoud, qui était rentré en Afghanistan à l'automne dernier pour fonder un mouvement politique en disant « il faut reprendre là où mon père s'est arrêté ».
Oui, alors, ces acteurs-là ont un point important. Ahmad Massoud, pas nécessairement le plus important, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas fait la guerre, mais il s'est exprimé hier quand même en faveur des... d'une manière un peu froide, mais en faveur des négociations et de la paix, pour poursuivre l'œuvre de son père. Mais c'est surtout la question des gens qui ont fait la guerre contre les talibans et qui sont principalement regroupés autour d'Abdullah Abdullah, qui veulent également avoir une place pendant ce dialogue. Inter-afghan. Oui.
Dialogue inter-afghan dont évidemment l'issue, l'accord de retrait signé samedi dépendra de la qualité de ce dialogue. Merci beaucoup. Veuillez m'excuser, Romain Malejac, qu'on arrive à la fin de cet entretien. Merci d'avoir été en ligne avec nous depuis Amsterdam. Donc, je rappelle que vous êtes professeur de sciences politiques à l'université de Radboud, et je donne les références du livre que vous avez publié très récemment sur la question, Warlord Survival, The Delusion of State Building in Afghanistan, Paris, aux presses de l'université de Cornell à New York, excusez-moi, à 6h45. C'est difficile, on met les références sur le site de l'émission. Bonjour Guillaume Erner. C'est pas votre humeur du jour, non, pas du tout, le coronavirus. C'est le 49.3, bien sûr. Faut-il dégainer le 49.3?
Et oui, c'est la question que je me pose, Julie. Ah non, pas à savoir s'il est opportun politiquement d'avoir recours au 49.3. Ça, vous doutez bien que je me garderai bien d'en parler. Non, je veux m'interroger sur le verbe dégainer. Car que dégaine-t-on, selon Monsieur Robert, une épée ou un pistolet? Alors bien sûr, on peut considérer que le 49.3 est, au sens métaphorique du terme, une arme. Mais pourquoi utilise-t-on ce verbe uniquement pour le 49.3? On dégaine le 49.3. Je n'ai jamais entendu dire qu'on dégainait une motion de censure ou bien encore qu'on dégainait une dissolution. Remarquez bien que si la dissolution était un revolver, j'en connais certains qui s'en sont servis pour se tirer dans le pied. Le 49.3 est-il le seul dispositif à être une arme? Dans ce cas, on se dit qu'il ne faut pas oublier les chiasmes marxistes, non, rien de politique là-dedans. Je veux parler des armes de la critique et de la critique des armes. Et parmi les armes de la critique au sujet du 49.3, il y a évidemment l'idée que ce 49.3 est autoritaire, qu'il procède en quelque sorte d'un abus de position dominante, d'où peut-être ce virilisme, attaché à son usage, comme s'il s'agissait de se battre et pas d'utiliser à bon ou mauvais escient. C'est encore un autre débat, le 49.3. Et c'est ça qui est étonnant finalement. Pourquoi avoir construit une association d'idées qui fait d'une procédure parlementaire une preuve de la virilité. Il y a quelque temps encore, on a bien vu que dégainer sa virilité ne portait pas nécessairement chance à un homme politique. Bien sûr, la virilité peut appartenir aux femmes. Golda Meir, premier ministre de l'État d'Israël de 1969 à 1974, était considérée par Ben Gourion comme le seul homme du gouvernement. Mais là aussi, cela interroge, car finalement, jamais la virilité n'a été une qualité du politique. La ruse, le calcul, oui, la morale parfois, l'indifférence souvent, mais la malitude, je vois pas. Le fait d'utiliser ce verbe dégainer crée en tout cas une étrange association d'idées, comme s'il s'agissait de mener une politique de cow-boys, ce qui est en soi très curieux, car les cow-boys avaient certainement beaucoup de qualités, mais pour ce qui relève de la politique, mieux vaut être Machiavel que John Wayne.